Et je vais maintenant le reste de sa vie, ça tombe ensemble avec la vie de l'ordre, comme il a dit une fois, ou du mouvement. Et je vais faire la deuxième partie de voir un peu quelles sont les idées maîtres qui l'ont guidé. Et ce sont ces idées maîtres qui l'ont guidé, je crois, qui expliquent aussi le succès de son entreprise. Parce qu'il avait quelque chose à dire. Et si je peux le caractériser, je dirais qu'il est un conservateur révolutionnaire. Tellement conservateur. Donc un vrai conservateur va au fond veut conserver ce qui est vraiment valable. Beaucoup de conservateurs ne conservent pas ce qui est valable, mais essayent de conserver les formes. Mais Sangharakshita est un vrai conservateur. Il a voulu conserver et propager ce qui est valable. Et comme ça, il est allé à la racine des choses. Et c'est parce qu'il est allé à la racine des choses qu'il a été révolutionnaire. Dans le sens qu'il a développé des idées et des formes d'action qui n'étaient pas traditionnelles. Son point de départ est quand même très fondamentalement traditionnel, je dirais. Il va au cœur même du Dharma et ça sans compromis. Et ça lui a permis de l'exprimer en termes de la culture occidentale. Je vais parler sur quatre points cet après-midi. D'abord, quel est le centre de sa pensée, le cœur de sa pensée. Deuxièmement, l'importance de la positivité mentale dans la vie spirituelle. Troisièmement, sa redéfinition presque du sangha, et quatrièmement, la primauté de la pratique et de l'aller en refuge. Et d'abord donc, l'essence du bouddhisme, le cœur du bouddhisme, il trouve, et ce n'est pas nouveau, mais il trouve dans Pratitya Samutpada, la coproduction coordonnée, comme on le traduit en français. Donc le fait que au centre de la vision du Bouddha, c'est accepter qu'il n'y a rien de définitif dans tout ce qui existe, que tout est en train, que tout se développe, que tout prend forme et que tout après un certain temps doit disparaître. Il a vu que c'est là le cœur même du bouddhisme, et c'est aussi le thème central de Survey of Buddhism. Le premier chapitre du Survey of Buddhism n'est qu'une analyse très profonde de ce point central du bouddhisme. Et ce livre, très important aussi, les trois chapitres suivants traitent essentiellement le thème de l'unité du bouddhisme. Et ce qu'il essentiellement dit là-dedans, c'est que les différentes formes du bouddhisme sont des adaptations et surtout des spécialisations. Il y a différents aspects dans le bouddhisme, et il y en a qui se sont concentrés sur la méditation, il y en a d'autres qui se sont concentrés sur, le rituel et toute une série d'autres possibilités. Mais sous-jacent à tout ça, et la thèse fondamentale du survey est que toutes ces formes-là sont basées sur la vue essentielle du Bouddha, qu'il n'y a rien de permanent, que le malheur qu'on se fait, la souffrance, suit du fait que nous ne reconnaissons pas ça. Le plus souvent, des expositions sur le bouddhisme commencent par ce qu'on appelle les quatre nobles vérités. Donc la souffrance, les sources de la souffrance, la possibilité d'y mettre fin et la voie qui y mène. J'en parlerai très longuement plus tard quand on discute les versets du Dhammapada, parce que c'est là-dedans aussi. Euh, Pour moi, ça a été un peu joué pendant pas mal de temps. Lequel de ces deux-là était vraiment le fondement du bouddhisme? Et je me suis rendu compte à un certain moment, en écrivant mon livre, en effet, que, au fond, ce sont deux aspects. Le pratityasamutpada, donc la coproduction coordonnée, conditionnée, je vais changer ça. Et pour ainsi dire, l'expression objective, c'est le côté objectif, tandis que les quatre nobles vérités, qui ne sont ni nobles ni vérités, mais on verra ça tout de suite, c'est l'aspect subjectif, l'aspect sur lequel nous prenons contact avec. Mais il en suit deux choses, du fait que Sangharakshita a découvert déjà très jeune, c'est que c'est là que se trouve la clé du bouddhisme. Et ça veut dire deux choses. D'abord, qu'on se réalise que le bouddhisme va bien au-delà, ou la vue du Bouddha va bien au-delà de la vie quotidienne que nous menons. Qu'il y a, pour ainsi dire, un aspect dans notre vie qui dépasse notre vie. Que, tout simplement, le bouddhisme ne peut pas, n'est pas là pour, est plus qu'une psychologie. Parce que dans l'Occident, très souvent, on le traite comme une psychologie. Et en tant que psychologie, c'est une psychologie bien très, très bénéfique. Ça on peut voir, par exemple, quand on voit tous les gens les psychiatres maintenant qui se tournent vers des méthodes bouddhistes de méditation, eux ont découvert aussi. Mais Sangharakshita a toujours insisté très fortement, il faut bien aller au-delà. Ce n'est qu'un sous-effet de quelque chose qui est bien plus important, qu'il y a des possibilités dans notre vie qui dépassent très largement ce que nous faisons normalement. Et je crois que ça a été aussi la racine d'une des caractéristiques très importantes du mouvement Triratna. Le mouvement Triratna est un mouvement bouddhique non spécialisé. Nous ne nous spécialisons pas sur tel ou tel aspect, mais Sangharakshita a toujours mis l'accent du fait qu'il faut faire toutes les choses à la fois. La méditation est très importante, bien sûr, mais la vie éthique est bien aussi importante. Et pas qu'elle soit pas importante dans les autres traditions, mais seulement ça ne prend pas une position si centrale, c'est plutôt comme quelque chose qu'on met à côté, tandis que dans la vie de Sangharakshita, c'est quelque chose de complètement intégré. Inutile de méditer si on ne mène pas une vie éthique non plus. Et troisièmement, l'essence du bouddhisme, c'est de dépasser notre vie de tous les jours, donc de voir qu'il y a quelque chose au-delà de notre vie, qui est le vrai but de la pratique. Et on met les trois ensemble. Il y a des mouvements, des traditions qui mettent l'accent là-dessus, par exemple, le Zen, c'est méditation avec le but qu'on peut obtenir en faisant ces techniques-là, on peut obtenir l'éveil. Donc, Sangharakshita dit, il faut faire les trois à la fois, on ne peut pas isoler l'un de l'autre, sinon on n'arrive nulle part. Et ça a eu des conséquences importantes pour la pratique de notre mouvement. Il a emprunté un peu à toutes les traditions des éléments pour notre pratique. On pourrait dire que le canevas, le fond, c'est plutôt un bouddhisme à la Theravada, mais là-dessus, et pas ajouté, mais intégré complètement, il y a des pratiques qui viennent du bouddhisme tibétain. Et ça a été possible pour lui parce qu'il était libre assez pour voir ce qui était important, c'était l'essence, et que qu'il pouvait donc utiliser des moyens d'origine différente. La seule importance était qu'elle soit intégrée, qu'on ne les prend pas un peu à l'aveugle, qu'on ne fait pas un pot pourri de ça.